Bonjour tout le monde, bienvenue à la table du débat de midi où ça devrait fuser aujourd'hui puisqu'on passe en mode ultra haut débit avec la 5G. Cinquième génération de réseau mobile, 30 ans après l'apparition des premiers téléphones portatifs, on disait comme ça à l'époque, dont le déploiement devrait commencer à la fin de l'année en France. Devrait, car certains essayent de stopper ce turbo technologique et demandent un moratoire, inquiet de l'impact environnemental, de potentiels risques sanitaires, et posant cette question presque philosophique, a-t-on vraiment besoin d'aller encore et toujours plus vite? La 5G nous promet un monde ultra connecté, fluidifié, avec des voitures autonomes, des vidéos téléchargées en quelques secondes, des systèmes innovants pour l'industrie et des prouesses pour la télémédecine. Un atout pour la compétitivité et donc l'économie, même pour la planète, disent ses partisans. Sans convaincre les opposants qui vont pour certains jusqu'à mettre le feu à des dizaines d'antennes relais en Europe. Alors la 5G va-t-elle tous nous rendre fous? On en débat jusqu'à 13h, venez à table.
Camille Crenier, le débat de midi sur France Inter.
Impeccable parité autour de la table aujourd'hui. Bonjour Yael Benayoun.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et présidente de l'association Le Mouton Numérique qui participe à la réflexion sur l'usage du numérique. Donc, en face de vous, Stéphane Kerkhoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de l'association Agir pour l'environnement qui a déposé des recours pour obtenir un moratoire. On en parlera bien sûr. Bonjour à Laure de la Raudière.
Bonjour.
Vous êtes députée d'Eure-et-Loir, vice-présidente du groupe Agir à l'Assemblée. Vous êtes engagée beaucoup sur les enjeux du numérique. Et enfin, bonjour Jacques Moulin.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'IDAT DigiWorld, on prononce comme ça, qui se présente comme un think tank pionnier reconnu comme référence internationale dans le domaine du numérique. Dites donc, ça c'est la classe a priori. Alors on va déjà expliquer, s'il vous plaît, je m'adresse à tous les quatre, vraiment simplement, clairement et avant de voir les questions et les inquiétudes, juste déjà ce qu'est la 5G qui peut paraître assez obscure, pas très concrète pour beaucoup. Jacques Moulin, qu'est-ce que la 5G?
Alors la 5G, comme son nom l'indique, est la cinquième génération pour les réseaux mobiles. Et c'est un petit peu plus en fait qu'une évolution technologique. Alors pour faire rapide et peut-être pour les auditeurs, pour bien repréciser, on caractérise la 1G comme étant celle qui a permis de transporter la voix sur le mobile, la 2G en permettant de faire des SMS, la 3G en ayant accès finalement au web mobile, la 4G a permis des débits beaucoup plus rapides, beaucoup plus interactifs et beaucoup plus denses. Et
la 5G, qu'on a actuellement,
que l'on a actuellement, absolument. Et la 5G est une évolution, mais c'est aussi une révolution, parce qu'on va franchir avec la 5G, on peut dire une sorte de saut quantique qui va permettre, par un niveau de latence, c'est-à-dire le moment, le temps qui est demandé, pardon, pour la transmission du signal.
Le petit décalage.
Exactement, le décalage. On peut prendre l'exemple du robinet, hein. Vous ouvrez votre robinet, l'eau coule, il y a un certain temps, eh bien, c'est pareil. Qui va permettre donc de réduire ce temps de latence de façon absolument extraordinaire, parce que nous sommes avec la 4G à du 0,27 secondes et on sera à du 0,01 secondes. Ça peut paraître un détail.
Quasiment rien.
Quasiment rien. Et ce n'est pas un détail parce que, notamment dans les applications et dans le cadre de la voiture autonome, on voit bien que si on met un petit peu de temps avant de déclencher le signal du frein, il y aura problème. Le deuxième point, c'est la densification, la densité. Et il y a une possibilité, effectivement, de connexion plus large avec la 5G de l'ensemble des outils connectés. C'est bien évidemment aussi la rapidité. On est sur une transmission qui va 10 fois plus vite que la 4G. Et enfin, et non des moindres, c'est aussi une qualité supérieure, une qualité, et on va dire d'une certaine façon, un sans défaut supérieur par rapport à la 4G.
Et donc déploiement normalement à partir de la fin de l'année, lors de la Raudière, dans 9 villes de France métropolitaine, avec un objectif de remplacer à quelle échéance la 4G?
Ah oui, vous avez raison, c'est l'attribution des fréquences donc à la rentrée pour les opérateurs, avec un déploiement sur 9 villes et puis une couverture progressive de l'ensemble de territoire.
Avec horizon quoi, 2030 pour que tout soit couvert?
Je crois que c'est 2028-2030, donc il y a du délai. L'objectif aussi est de couvrir assez rapidement, en parallèle à certaines villes, des zones industrielles, les zones d'activité, parce que l'enjeu, comme l'a très bien expliqué Jacques Moulin, c'est finalement le développement des nouveaux usages, et ces nouveaux usages sont des usages industriels. C'est-à-dire que c'est important dans le développement des objets connectés pour l'industrie, dans l'objet des robots industriels qui va révolutionner finalement la façon de produire et la possibilité pour la France de relocaliser des activités industrielles et donc de maintenir ou de créer des emplois industriels, d'avoir la 5G.
Je le précise, déjà présent la 5G, notamment évidemment en Asie, côté Chine et Corée du Sud, premier pays à l'avoir déployé. En Europe également, en Royaume-Uni, Allemagne, Italie, merci. Espagne ou Suisse par exemple. Stéphane Kerckhoff, très factuellement, encore une fois, je voudrais qu'on comprenne bien de quoi on parle avant vraiment d'entrer dans le débat. Quelles antennes, quelles fréquences on va utiliser pour utiliser la... On va avoir besoin pour utiliser la 5G.
Oui, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me demander de défendre la 5G, je suis pas sûr d'être
c'est
le meilleur
avocat. C'est pour ça que
avocat.
Je vous dis, on va en débattre.
Oui, il n'y a pas de problème. Déjà, donc la 5G va utiliser trois types de fréquences, 700 MHz qui est déjà utilisé, 3,4 GHz à 3,8 GHz et éventuellement 26 GHz. C'est des fréquences qui n'ont jamais été utilisées par la téléphonie mobile. Voilà, ça c'est notamment ces gammes de fréquences.
Le 26 GHz, les autres fréquences
3,5 GHz,
oui,
les
sûr.
Autres fréquences dans les pour être précis.
Pour la 5G, en l'occurrence, ce sont ces fréquences-là. Les obligations de couverture aujourd'hui proposées par l'ARCEP, c'est une ville avant la fin de l'année et c'est d'ici 2025 les principales zones urbaines et les principaux axes routiers. Donc on voit qu'il y a aussi un gap entre ce qui est attendu, c'est-à-dire une couverture nationale, et les obligations de couverture qui restent relativement anecdotiques
et
d'ici 2025.
Et donc, vu que ce sont des fréquences qui ne sont pas toutes utilisées pour l'instant, il va falloir, Yael Benayoun, mettre plein de nouvelles antennes partout, notamment que en particulier les 26 GHz, je crois, n'aiment pas trop les murs et la pluie, donc il va falloir...
Oui, c'est ça. Si on regarde vraiment en termes de sites, il va falloir multiplier par 3 le nombre d'équipements... d'équipements pour couvrir le réseau. Mais en fait, ce qui me semble aussi intéressant et ce qui a peut-être pas été dit juste là, c'est que bien évidemment, ça vient avec des nouveaux usages. Mais derrière, ce qui est attendu en termes d'objets connectés, c'est quand même un doublement des équipements d'ici 2025 pour arriver à 125 milliards d'objets connectés, qui représentent grosso modo entre 8 et 10 équipements connectés par personne dans le monde d'ici 2030. Donc derrière, c'est bien un projet de société aussi qui arrive avec la 5G.
Et on va en parler, la 5G, dans le débat de midi. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à réagir, poser des questions sur l'application France Inter et sur Twitter, le mot-clé débat de midi, logique. Émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Nathan Gallo avec Jules Thomas, Pauline Laverdure à la console et bien sûr, téléphone pour nous accompagner.
Demande à l'interphone.
C'était l'été 1977, Hygiaphone de téléphone, pour être raccord avec le thème du jour. Donc la 5G va-t-elle tous nous rendre fous? C'est la question qu'on se pose, hein, vu comme le sujet déchaîne les passions. Ça n'a pas arrêté de parler pendant le disque. J'aurais dit stop, le débat va commencer. Donc hier encore, d'ailleurs, c'était en une du Parisien Aujourd'hui en France, qui titrait « Doit-on avoir peur de la 5G ?» C'est avant tout l'impact sur la planète qui fait débat. Stéphane Kerkhoff, d'Agir pour l'environnement, je le rappelle, pour l'environnement. Qu'est-ce que vous reprochez à la 5G de ce point de vue-là?
Ben, on reproche surtout au gouvernement de mélanger vitesse et précipitation, développer ou
déployer
la 5G et valider les fréquences à partir de septembre sans avoir mené à bien une étude d'impact.
Mais alors pourquoi vous dites que c'est mauvais pour la planète? Potentiellement.
C'est potentiellement mauvais pour la planète, et encore faut-il mener les études et laisser aux agences, notamment l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, le soin de mener ces études d'impact. Il faut du temps, donc autant mener correctement ces études et éventuellement développer par la suite. Ce qu'on a constaté, et on le regarde aujourd'hui, c'est que l'impact du numérique en 2019, c'était 3,7% des émissions de gaz à effet de serre, et on évalue aujourd'hui, à 2025, l'impact à 7,5%. Si on veut respecter les accords de Paris et limiter l'augmentation de la température du globe à 1,5 degré, il faudrait réduire de 5%, là où chaque année on augmente de 8%. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le numérique et notamment la 5G vont avoir un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça va consommer énormément d'électricité en supplément.
En utilisation.
En utilisation et en fabrication.
Et en fabrication, voilà, c'est ça qui est en dessous. Je voudrais savoir, il va y avoir, c'est ce que vous disiez, Yael Benayoun, il va y avoir de nouveaux équipements à fabriquer, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est ça? On va devoir fabriquer des antennes, des téléphones?
Oui, et peut-être justement sur cette question, et le fait qu'on n'ait pas d'études systématiques sur la question est intéressante, puisque donc on disait qu'effectivement les antennes 4G pourront être utilisées, en tout cas au début, pour déployer la 5G, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça s'empile en fait sur la 3G, la 4G, la 5G, donc en fait chaque antenne va devoir produire plus d'électricité, et ce qui fait qu'on observe déjà aujourd'hui qu'il va falloir en fait mettre des équipements de production énergétique locale sur chaque antenne, dont le coût doit aussi être prévu. Donc c'est-à-dire aujourd'hui c'est des panneaux solaires, c'est des éoliennes, mais donc c'est que quand on parle du coût énergétique aussi de la 5G, il faut bien prendre effectivement la consommation énergétique du réseau en lui-même, mais les infrastructures qui sont déployées, les antennes, les infrastructures qui permettent que ces infrastructures fonctionnent, et en même temps la fabrication de tous les équipements, donc des milliards dont j'ai parlé avant.
Le chiffre que vous le sortez d'où, le chiffre que vous nous avez donné sur l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, Stéphane Kerkhoff?
C'est le chiffre project. Ouais.
C'est le chiffre project, d'accord. Lors de la Raudière, est-ce que vous les entendez, ces arguments? Vous parlez, vous, sur votre compte Twitter?
Moi, j'entends tous les arguments parce que
vous parlez d'idéologie écologiste par pur populisme. Vous y allez fort.
J'ai pas dit ça de mes interlocuteurs, bien sûr. Oui, j'ai pas dit ça de mes interlocuteurs d'aujourd'hui. Et je pense que le débat est nécessaire parce que c'est un débat de société. Ça fait la une, je crois, du Parisien d'hier, la une, la 5G, oui, c'est la une du Parisien d'hier. Donc il y a un vrai débat de société, donc ce débat est nécessaire. Simplement, il faut aussi remettre des infos importantes. C'est dans la consommation énergétique du numérique que vous avez cité, les réseaux, c'est peanuts. Donc l'augmentation de peanuts, ça fait pas beaucoup. Hein, c'est juste, excusez-moi, un fait. L'augmentation, la consommation énergétique dans le numérique, il y a un rapport sénatorial qui a été publié la semaine dernière et qui arrive aux mêmes conclusions que toutes les études. C'est d'abord les ordinateurs et les terminaux. Donc c'est sûr, si on veut vraiment réduire la consommation énergétique dans le domaine du numérique, il faut agir sur la fabrication des terminaux et des PC. D'ailleurs, c'est très intéressant, la semaine dernière aussi, Apple a dit que d'ici 2030, il serait à la neutralité carbone. 2030, c'est demain pour une grande entreprise du numérique. Donc ça veut dire que toutes les grandes entreprises du numérique sont très conscientes de ces enjeux. Et donc il va y avoir des améliorations dans ce domaine-là. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Alors, par rapport à la consommation énergétique. Moi, je pense que aussi...
Falloir fabriquer, vous l'entendez quand même, que les équipements n'existent pas. Vous parlez d'Apple aujourd'hui, les iPhones ne peuvent pas prendre en charge la 5G. Ça veut dire qu'il va falloir gaspiller les téléphones 5G... qu'on a aujourd'hui, les mettre dans un tiroir et en racheter de nouveaux.
L'enjeu de la 5G n'est pas de remplacer son terminal 4G par un terminal 5G. L'enjeu de la 5G est la capacité qu'on va avoir à développer de nouveaux usages. Et c'est pas le téléphone ou, comme l'a dit un maire écolo, d'aller regarder du porno dans l'ascenseur.
Ça, c'est le maire de Grenoble.
C'est pas ça l'enjeu de la 5G. Bah. L'enjeu de la 5G, c'est pas aller regarder du porno dans l'ascenseur.
Non, mais ça fait partie des choses. On va pouvoir télécharger des vidéos très rapidement. Oui, c'est les arguments aussi.
Mais quand, quand on parlera de l'ambulance connectée, où vous aurez un ambulancier qui est capable d'avoir à distance un chirurgien et de faire les premiers soins exactement calibrés par rapport à un outil robotisé avec le délai de latence qui a été cité par Jacques Moulin réduit, là, on est dans un usage concret, alors, intéressant pour la population.
Je laisserai Stéphane Kerkhoff vous répondre.
On est sur la mise en place de voitures autonomes en milieu rural pour pouvoir faire des déplacements sur des personnes âgées pour leur maintien à domicile dans leur commune, dans leur maison, c'est aussi des
Stéphane
enjeux vraiment
Kerkhoff,
intéressants.
Je vous vois lever les yeux au ciel.
Oui, alors il se trouve que j'habite une petite commune rurale et
vous
en
avez
fait,
de la chance, moi aussi.
J'ai une immense chance et tous les jours je me le dis. Si ce n'est que depuis le 15 décembre, il y a eu une tempête, je n'ai plus de ligne fixe. C'est-à-dire que à force d'amener
il y a aujourd'hui des zones blanches encore en France.
Non, c'est même pas une zone blanche.
Oui,
c'est-à-dire que c'est pas 4G, 3G, c'est la ligne fixe aujourd'hui. C'est à force de conduire les opérateurs à investir, surinvestir dans les zones urbaines, sur des nouvelles technologies et en ajoutant et en empilant des nouvelles technologies, on oublie de maintenir un réseau filaire à niveau, ce qui amène aujourd'hui à une dépendance au tout numérique. Ça, c'est une vraie question. Après, vous parlez tout à l'heure du rapport de la mission d'information du Sénat. Le Sénat ne dit absolument pas que le numérique n'a pas d'impact sur le carbone. Je vais lire la phrase. La mission du Sénat demande donc que la 5G fasse enfin l'objet d'une étude d'impact complète, intégrant les effets de la technologie sur la consommation énergétique des opérateurs. C'est ça ce qui est demandé aujourd'hui.
Sur ce sujet-là, l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, qui n'a pas répondu, je le précise, favorablement à notre invitation, comme l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, assure que tout est conçu pour optimiser la consommation d'énergie et qu'il y aura même un baromètre vert pour les opérateurs. Miracle, Jacques Moulin.
Oui, absolument. Déjà, il y a un point qui me semble important parce que on parle 5G. Et d'ailleurs, le plateau est assez illustratif. Nous n'avons pas d'industriels.
Ils n'ont pas voulu. Hein.
Or, le sujet, c'est que justement, dans un premier temps, c'est bien sur, dans notre jargon, ce que l'on appelle le B2B, c'est bien effectivement sur le segment de l'industrie que va se poser l'utilisation et l'application de la 5G. C'est un élément très important parce que on part tout de suite sur une logique du citoyen, et c'est un point fort. Il a été évoqué la fracture numérique qui existe. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des plans qui sont mis en œuvre, le plan du très haut débit. Je vous incite d'ailleurs à regarder tous les travaux que nous faisons avec Infranum pour justement regarder comment le territoire permet d'être connecté avec de la fibre ou tout du moins avec du haut débit.
Là, sur les inquiétudes par rapport à la consommation énergétique, qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'études et nous, au sein de Didat, nous avons décidé de lancer justement un groupe de travail, une commission avec des collectivités territoriales, avec effectivement des intégrateurs, avec des opérateurs, avec aussi des représentants du CNRS, puisque nous avons la chance d'avoir le CNRS en tant que membre de l'IDAT, pour poser les choses et pour avoir une démarche scientifique. Pour ne pas avoir effectivement une démarche qui part sur peut-être des peurs. J'ai lu, et je trouve que c'est assez bien vu, que l'on pouvait comparer la 5G peut-être à la découverte des vaccins par Pasteur, c'est-à-dire qu'après on met tout un tas de phobies et d'inquiétudes derrière ce point, sans véritablement le travailler. Il y a un élément qui me semble essentiel et qu'il faut prendre en compte, c'est que l'industrie, si elle n'est pas dotée de la 5G, l'industrie européenne va prendre du retard. Et l'industrie française va prendre du retard. Vous venez de dire
Donc c'est parce que c'est pour se mettre dans cette course toujours effrénée,
à
aller toujours plus vite, ce que je disais tout à l'heure. Yael Benayoun, par rapport à ça, justement, il y a une question philosophique peut-être derrière tout ça. On prône aujourd'hui la sobriété, notamment la sobriété énergétique, c'est inscrit dans la loi. C'est à l'inverse de la sobriété, la 5G.
Oui, et même, je vais peut-être même revenir sur un cas un peu économique déjà pour commencer, qui est le modèle économique des opérateurs. Parce qu'en fait, le cas français est un peu particulier. Les opérateurs télécoms achètent des fréquences à l'État. Donc en fait, il y a un enjeu de rentabilité.
Ça coûte plus de 2 milliards d'euros, hein, je crois, une licence pour un opérateur de la 5G.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a même une étude du cabinet McKinsey qui chiffrait que pour les opérateurs, les coûts d'infrastructure, s'ils déployaient la 5G, 5G allait augmenter entre 60 et 300%. Donc en fait, il y a un enjeu de rentabilité derrière et tout en sachant, comme déjà ça a été dit, que la 4G aujourd'hui n'est pas rentable pour les opérateurs et que certains départements ne sont pas couverts. Donc ce qui pose quand même deux questions, on va dire que ça drive un peu dans un sens, c'est que oui, il y aura peut-être des emplois localisés qui seront intéressants, mais en fait, pour que ce soit rentable pour les opérateurs, forcément, on va aller sur un déploiement massif de la 5G, donc qui va bien sûr concerner le citoyen. D'ailleurs, il y a une étude du cabinet Gartner qui montre que la première année du déploiement de la 5G, c'est 70% des équipements qui vont être connectés au réseau qui seront des caméras de surveillance. Donc ça, c'est pas lié directement à l'industrie, en tout cas, c'est pas le premier emploi, et que les 5 premières années, ça sera le premier marché sur le réseau. Donc juste, pour aller là-dessus, il faut bien comprendre, en tout cas, que dans le cas français, la 5G a peu, en tout cas, clairement pas à court terme, à moyen terme, c'est encore moins sûr, et à long terme, là, on verra, de se déployer en zone rurale.
On a beaucoup de sujets, beaucoup d'auditeurs qui nous envoient des messages avant de parler de la 5G. Moi, j'aimerais bien pouvoir juste avoir de la 3G. Et peut-être, il y en a beaucoup qui nous écrivent. Hein. Je ne vais pas tous les citer, mais j'ai plein de messages.
Juste là-dessus, parce que ça va en fait avec le modèle économique, et je pense que c'est important pour bien cerner le débat. Au Royaume-Uni, le 79% des investissements qui ont été faits par les opérateurs en termes d'infrastructures concernaient justement la couverture des zones rurales. Donc on comprend bien que dans une logique où vous avez des opérateurs privés qui en fait doivent être rentables, ils vont pas déployer majoritairement en zone rurale, en sachant que le budget des ménages est en train de se rétracter et que les forfaits ne peuvent pas augmenter de manière illimitée.
C'est ça, lors de la retire, est-ce que ça ne va pas accélérer ou augmenter une fracture déjà territoriale et sociale?
C'est un mauvais débat, parce que tous ceux qui suivent les travaux que j'ai faits à l'Assemblée nationale savent que mon combat politique, c'est le très haut débit. Pour tous et partout. Moi aussi, je vis en milieu rural et je sais très bien ce que vous vivez lorsque la ligne téléphonique fixe est coupée aujourd'hui. Les délais de rétablissement sont devenus astronomiques. Ce qui montre aussi l'importance pour tous les citoyens d'avoir un accès numérique de qualité à très haut débit.
Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui.
La politique du gouvernement là-dessus a été nouvelle, a changé depuis 2018 avec la mise en place du New Deal mobile.
Florence nous écrit, ne pensez-vous pas qu'il faudrait déjà qu'il n'y ait plus de zones blanches avant de penser à la 5G?
Je suis convaincue de ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une décision qui a été prise en 2018, qui est en cours de déploiement, qui est plus de 5000 antennes en zone rurale, par opérateur d'ici fin 2026. Donc ce projet, il est en cours. Donc je comprends la satisfaction de cette auditrice.
Mais de plein d'autres, j'ai le même. C'est une réalité.
Ce que je veux dire par là, c'est que cette décision, elle est prise et la déclinaison du programme New Deal est en cours. Et progressivement, et on le voit quand même, il y a une amélioration de la couverture numérique mobile en 4G dans les zones rurales. Il y a encore des zones blanches, je le sais bien, mais la décision a été prise. Donc maintenant, on a une autre décision à prendre, qui est celle-là, elle est prise, elle déroulera, et il y aura une couverture de toute la population d'ici 2026-2027. Il y a une autre décision à prendre, c'est est-ce qu'on dote la France du réseau 5G pour être présent dans la bataille industrielle de demain. C'est ça.
Mais c'est ça, et si du coup, on prend la question du retard,
finalement, on ne pourra pas rattraper
le retard. Ce que vous dites avec Monsieur Moulin, c'est que l'essentiel, c'est de ne pas être... c'est de ne pas être en retard par rapport au monde, finalement.
Mais les citoyens français... C'est important de rappeler qu'on est dans une économie mondialisée, qu'on le veuille ou non, c'est un fait, et que toute décision qui nous fait prendre du retard...
Donc c'est l'économie
Toute décision qui nous fait prendre du retard dans le domaine industriel, c'est moins d'emplois demain, et donc c'est la misère dans un pays.
Message sur Twitter. Je me demande non pas si elle nous rendra fous la 5G, mais à quoi elle sert vraiment dans un contexte de changement climatique tel qu'il faudrait au contraire freiner drastiquement nos consommations.
Vous êtes en train de dire que c'est l'économie qui justifie la 5G,
Stéphane Garcon.
Les objets connectés permettront de réduire la dépense énergétique.
Je ne sais pas si c'est un mauvais débat. Par contre, c'est un faux débat. Un faux débat dans le sens où l'Arcep, je le répète, les obligations de couverture, c'est les principales zones urbaines et les principaux axes routiers d'ici 2025. En 2025, on sera à la 6G, 7G, 8G. Donc, arrêtons de croire que globalement, une ambulance qui circulera en zone rurale pourra se connecter pour faire de la chirurgie à distance. Ça ne marchera pas. Il y aura une coupure de réseau et vous prendrez des risques considérables. Après, savoir si on est en avance ou si on est en retard. Si on est en avance pour se précipiter dans le mur climatique, je suis pas sûr que ça soit une avancée.
Jacques Moulin.
Non, juste un point par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas la 4G, plus exactement, la 5G ne va pas être mise en place au moment où la 4G devra être mise partout sur le territoire. Ce n'est pas le sujet. Le New Deal, comme l'a expliqué lors de la Redière, est lui mis en place pour assurer une couverture mobile. Alors effectivement, ça demande des investissements, effectivement, ça demande du temps. Par ailleurs, ça demande aussi des compétences. Hein. Il appartient notamment au programme éducatif de former suffisamment de jeunes pour être en capacité justement à aller faire les travaux qui sont nécessaires. Mais si nous ne commençons pas les expérimentations sur la 5G, si nous ne commençons pas à préparer l'industrie, c'est effectivement l'emploi de demain. Nous serons très assurément un demi-million, soit d'un modèle américain, soit d'un modèle asiatique ou chinois, qui, eux, ont déjà déployé la 5G. Il suffit de regarder ce qui se passe effectivement en Chine, où on est sur plus de 100 millions.
Mais encore une fois, je vous interromps, on est encore dedans, mais on s'est pris un confinement pour la moitié de l'humanité, où on parlait du monde d'après, en disant c'est un monde qui va trop vite, c'est un monde trop connecté. C'est ça qui a aussi été l'une des causes de la pandémie, cette ultra-connectivité du monde. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut aller encore plus vite.
Parlons-en justement. Ce qui a permis aussi...
Est-ce que c'est pas juste à l'opposé de ce vers quoi on pensait aller pendant le confinement?
Ce qui a permis de maintenir l'économie, et toutes les entreprises peuvent le dire, toutes les universités peuvent le dire, ça a été justement la connectivité. Et juste un point, je voudrais vous préciser, on est actuellement en train de prendre une photo sur une 5G, alors que l'on sait que les technologies nativement évoluent et qu'elles sont de moins en moins énergivores. C'est un point où tout le monde s'accorde
si elles sont
à
multipliées. Alors, Yael Benayoun, on va vous laisser répondre. Ça va être un peu compliqué. Non, je pense qu'il y a quand même un sujet dont on n'a pas traité, qui est juste pour quel usage. Effectivement, c'est la question qui a été posée par les auditeurs. En fait, aujourd'hui, la quasi-totalité des usages numériques qui sont, je sais pas moi, lire un article en ligne, prendre un billet de train sur Internet ou quoi, se fait très bien et même de manière optimale avec la 4G. Donc déjà, peut-être déployons la 4G, voyons ce que ça fait. Et ben donc nous allons y venir. Donc là j'ai la liste des usages prévus par l'ARCEP.
Donc l'autorité des télécoms, je le rappelle.
Voilà, de régulateur des télécoms en France. Donc c'est bien sûr du streaming vidéo, de la réalité virtuelle, de la connectivité à faible latence entre véhicules et infrastructures, véhicules entre eux. Donc en fait c'est vraiment un boulevard pour la smart city. C'est la multitude des capteurs connectés dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est les 100 milliards d'objets connectés. Et donc la vraie question, si on prend ne serait-ce que le streaming vidéo, parce que là, pour le coup, il y a des études qui sont sorties dessus, donc on sait à peu près ce que ça coûte, et c'est extrêmement énergivore. En 2018, ça représentait l'équivalent de la consommation énergique d'un pays comme l'Espagne, et il est prévu que ça représente 80% du trafic mobile l'année prochaine. Donc on imagine que effectivement, c'est juste pas soutenable, et comme le disait, je finis juste là-dessus, Monsieur Kerkhoff tout à l'heure, normalement, on devrait réduire en fait la consommation du secteur numérique qui aujourd'hui est celui qui est le plus en croissance de tous les secteurs industriels.
Et je vais laisser Laure de la Rodière vous répondre dans un instant. D'abord le message de Baptiste, intéressante la phrase de votre intervenante, la 5G servira à répondre à de nouveaux besoins que l'on saura créer. C'est donc bien l'objectif de créer des besoins au détriment de la planète.
Ça démarre au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper des tambours, le fond de l'air est lourd et tu dérives encore. Mentir pas permis, faiblir interdit, sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi, tu cherches la sortie, bye bye les gentils. Tu poursuis tes pulsions avant qu'elles s'évaporent. Passer les premiers frissons, passer le mur du con, t'as enfin pu dire non et tu l'as dit très fort. Sois cool, sois poli. Dans l'ordre établi.
C'était l'impératrice sur France Inter.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et nous parlons 5G aujourd'hui dans le débat de midi, la cinquième génération de réseau mobile qui devrait couvrir 100% du territoire français en 2030. Avec mes invités, Stéphane Kerkhoff, délégué général d'Agir pour l'environnement, Yael Benayoun de l'association Le Mouton Numérique, Jacques Moulin du think tank IDAT et la députée d'Agir d'Eure-et-Loire, Laure de la Rodière. Vous vouliez répondre à ce qui se disait juste avant l'impératrice, à savoir...
il y avait votre auditeur qui disait la 5G pour
que ça crée nos besoins,
ça crée nos besoins. Et pour détruire la planète. Mais c'est pas ça, c'est que ça peut créer de nouveaux usages justement pour protéger la planète. Il faut pas avoir un déterminisme puisque aujourd'hui, par exemple, les objets connectés qu'on peut avoir dans le domaine du bâtiment sont là pour nous faire faire des économies d'énergie. Mmh. Vous savez que le secteur du bâtiment est le deuxième secteur le plus consommateur d'énergie
troisième. C'est derrière, il y a transport, agriculture, bâtiment.
Ah, moi, je mettais l'agriculture d'ailleurs. Non, donc, on est, à mon avis, à peu près au même niveau. Donc, mais je vous donne volontiers raison. Mettons le troisième
secteur.
Dans tous
les cas, ça émet des gaz à
effet de serre. Donc, voilà, typiquement, la 5G peut faire développer et faire utiliser en fait dans le domaine du bâtiment des objets connectés qui permettront de moins consommer.
Jacques Moulin, c'est une révolution à côté de laquelle on ne peut pas passer.
Oui,
on n'a pas le choix, c'est ce que vous dites en fait.
En fait, justement par rapport à ce que la 5G peut apporter en positif, parlons d'un sujet qui est les déserts médicaux. Vous savez, moi j'ai travaillé en Lorraine, on connaît bien en Lorraine certaines parties de la Lorraine où il est très difficile actuellement de pouvoir avoir accès à un médecin. Même pour une consultation qui n'est pas grave.
Mais à quoi bon avoir un médecin en télémédecine si on n'a pas d'internet chez soi ?
Mais justement, avec la 5G, il y a une possibilité de permettre d'avoir des télédiagnostics.
Oui, mais si on n'a pas Internet chez soi, c'est ma question.
Mais Internet, vous pouvez l'avoir, parce que là, vous parlez effectivement avec du filaire, entre guillemets, ou de la fibre. Mais si justement vous l'avez par le biais du mobile, il vous sera donc possible d'avoir ces activités de télémédecine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer toutes les technologies. Il est évident aussi, par rapport à ce qui a été évoqué sur l'empreinte carbone des opérateurs, il y a un engagement qui est pris par les opérateurs et qui est effectivement d'être neutre en carbone d'ici à 2030. On a vu, et c'est dans l'actualité, puisqu'il y a eu un communiqué d'Orange qui a été publié, on voit que le groupe Orange a fait appel à un opérateur en énergie renouvelable justement pour permettre de remédier aux difficultés que l'on pourrait avoir.
Ils n'ont pas le choix, de toute façon, il y a un objectif de neutralité carbone en 2050.
Absolument,
en France,
mais il faut le saluer.
Mais
c'est une obligation. Mais qui dit une obligation prouve que c'est mis en œuvre.
Alors, sur le volet environnemental, simplement, on le disait, l'ANSES prépare un rapport pour le début de l'année prochaine, comme pour le volet sanitaire, parce qu'il y a des inquiétudes également sur les risques potentiels liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques et notamment la fameuse bande 26 GHz. On avait reçu dans la Terre au Carré en février Olivier Merkel, qui est responsable de l'unité d'évaluation des risques liés aux nouvelles technologies de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il disait à ce sujet.
On est toujours très prudent face à ces questions-là. Comme ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 15 ans pratiquement qu'on travaille sur ces questions-là, qu'on fait donc des expertises, c'est-à-dire qui consistent à récupérer l'ensemble des publications scientifiques disponibles sur la question. Donc ça fait 15 ans qu'on analyse toutes ces publications, qu'on met à jour nos expertises. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est important quand même de souligner, c'est qu'on n'a pas de preuve d'un effet des ondes radiofréquences, donc de ce type d'ondes, sur la santé. Néanmoins, effectivement, on le voit là, il y a des nouvelles fréquences qui arrivent. Donc il faut rester effectivement vigilant, il faut se poser la question et savoir quelles vont être les conséquences de ces nouvelles fréquences sur la santé.
Donc ça veut quand même dire que vous ne pouvez pas évaluer à ce stade, en tout cas, les risques.
Laissez-nous le temps de travailler.
Mais oui, mais elle arrive, la 5G, vous comprenez que les gens se posent la question maintenant, c'est pas dans 3 ans, c'est dans 6 mois.
Bien sûr, mais il faut nous laisser le temps de travailler, donc on va, début 2021, rendre
un avis. Donc une fois que le déploiement aura commencé.
Rendre un avis sur la dangerosité de ces ondes millimétriques.
Stéphane Kerkhoff, une réaction. Donc on déploie d'abord et on fait des rapports après.
C'est notamment pour ça qu'avec Priartem, nous avons saisi le Conseil d'État. C'est pour laisser du temps aux agences dont c'est le métier de faire œuvre de et de pouvoir travailler et faire œuvre de pédagogie.
Conseil d'État qui a rejeté 2 des 4 recours pour l'instant.
En référé suspension, en indiquant qu'ils allaient très rapidement traiter le problème sur le fond. Et c'est notamment pour ça que, en fait, ils nous déboutaient sur le référé. Après, l'ANSES est en train de travailler. L'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, est en train de mener à bien des expérimentations pour connaître le niveau d'exposition induite par la 5G. Ce qu'ils disent, notamment au sein du comité de dialogue mis en place par cette Agence nationale des fréquences, c'est que la tendance est à une augmentation du nombre de points atypiques dans les zones urbaines très denses, avec un nombre d'émetteurs concernés plus important. Dans l'hypothèse de l'ajout d'émetteurs 5G au déploiement futur 4G, le niveau d'exposition moyen augmente d'environ 30% et génère environ 50% de zones supérieures à 6 volts par mètre. Voilà, ça signifie qu'aujourd'hui...
Et reste très inférieur au seuil réglementaire très inférieur au seuil réglementaire autorisé à 61 millivolts. Il faut tout dire.
61 volts par mètre, c'est les seuils qui ont été fixés en 2002. Ça fait 18 ans. En 2002, il n'y avait pas la 4G, il n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas la 2G. Enfin, on est sur quelque chose...
Et toutes les études scientifiques faites depuis 2002 montrent, sauf celle du professeur Belbaum, mais toutes les autres montrent... Toutes les autres montrent qu'il n'y a pas de nocivité sur la santé.
Depuis 2009, l'Agence nationale, l'ANSES, Agence nationale sécurité environnementale, dit et répète au chaque rapport qu'il faut baisser les expositions.
Mais
baisser les expositions,
c'est pas des antennes,
je précise
que portables. Il parle des terminaux.
D'accord, je savais pas que le 5G n'allait pas fonctionner sur les portables.
Non mais attendez, excusez-moi, vous avez très bien étudié votre dossier, mais vous pouvez dire qu'à chaque fois, les précautions qui sont mises en avant par l'ANSES concernent les terminaux. Il faut le dire. Et d'ailleurs, on dit qu'il faut mieux utiliser
les terminaux, c'est-à-dire les téléphones.
C'est-à-dire les téléphones, mais jamais il y a eu une mise en cause des antennes.
Je précise que l'Organisation mondiale de la santé n'avait constaté en 2018 aucun effet nuisible du téléphone portable sur la santé.
L'ANSES mène à bien aujourd'hui une expertise dans laquelle le pré-rapport qui a été rendu en janvier de cette année dit on ne sait pas aujourd'hui ce que donneront
mais
ces fréquences.
Mais ne pas savoir ne veut pas forcément dire
absolument,
que c'est dangereux, absolument. Jacques Moulin. Pourquoi
c'est tout l'intérêt du principe de précaution aussi.
Absolument, parce que et vous voyez, c'est un petit peu là le sujet sur la peur que peut provoquer une nouvelle technologie. Tout de suite, on bondit sur les dangers que cela pourrait susciter, alors même, et comme l'a dit Laure de la Rodière, que ce qui est pointé, c'est effectivement l'utilisation du terminal. Et qu'il existe par ailleurs des modalités, on le sait, vous parliez de kit main libre à l'instant, bien c'est le cas,
qui permettent,
ça fait partie aussi des éléments qui permettent effectivement donc de répondre à ce que vous dites. En revanche, en ce qui concerne les antennes, il y a aussi des éléments qui sont importants quand on parle des antennes qui seront les antennes de la 5G.
Qui vont être multipliées, on le rappelle, il y en aura partout des antennes pour la 5G.
Là aussi, il faut être très clair. On est en train de faire un scénario qui est complètement invraisemblable, où on multiplierait les antennes dans tous les sens.
Je rappelle
ce qu'a dit Nicolas Guérin, en tant que président de la Fédération française des télécoms, c'est que pour le moment, il ne s'agit pas effectivement de déployer des antennes partout. On va d'abord utiliser les antennes existantes, que par ailleurs, les petites antennes et les antennes qui peuvent être utilisées dans le cadre de la 5G, pour certaines d'entre elles, sont des antennes intelligentes. Ce sont des antennes qui, en particulier vis-à-vis de l'énergie, ne sont activées que dès lors, effectivement.
Oui, alors ça, c'est ce que dit notamment Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État, dire elles vont s'activer que lorsque le signal est émis.
Absolument.
Sauf que dans une ville où il y a, je ne sais pas combien de milliers de personnes qui activent en même temps, ça revient exactement au même le bassin d'ondes, j'imagine.
Premier point, mais ces petites antennes ne seront pas forcément déployées partout. Ensuite, on a dans la technologie des antennes 5G une technique, alors qu'on appelle de la focalisation, qui permet, par rapport aux autres antennes, eh bien, de ne pas avoir une sorte de halo de faisceau aussi important.
Oui, mais c'est ce que je dis, s'il y a 1000 personnes en même temps, c'est pareil.
Non, le deuxième point, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle la technologie MIMO, qui permet d'avoir un chemin beaucoup plus optimisé et qui permet justement d'aller directement au niveau du mobile. Donc en l'occurrence, on a tout un tas de spécificités natives dans les antennes qui permettent de contrecarrer l'espèce de mythe qui est d'ailleurs alimenté par des fake news. On est en train de brûler des antennes comme on brûlait les sorcières parce qu'on pense que c'est susceptible de donner le coronavirus.
On rappelle d'ailleurs que 2 hommes ont été condamnés lundi dans le Jura pour avoir détruit 2 antennes. Ils ont pris 4 ans et 3 ans de prison ferme. Yael Benayoun.
Alors peut-être, oui, effectivement, non, juste sur cette question-là, il y a une polarisation quand même du débat public, en tout cas ces derniers mois, sur la question sanitaire. Alors comme on disait, en fait, il n'y a aucune aucune étude qui a été faite en conditions réelles pour le moment. Donc en fait, juste,
Pauline nous dit encore une fois, nous allons être des cobayes.
Oui, c'est et donc bon, pour le moment, cette polarisation du débat, j'allais dire sur cette question-là, contribue plutôt à faire taire les oppositions et à mettre tous les opposants dans un même panier qui serait les complotistes. Voilà, donc comme vous dites, la 5G va apporter le coronavirus, les anti-vaccins et tout ça. Et bref, finalement, ça évite de parler des vrais sujets de fond qui sont en l'occurrence plutôt là le problème écologique et même le problème de surveillance dont on parlait quand même au début, dont on n'a pas parlé.
On va en parler, oui.
Sur la question quand même de l'industrie, parce que ça me semble important. Vous dites qu'il n'y aura pas de déploiement massif, en tout cas tout de suite, ça c'est sûr, mais vous voyez bien que quand on va relocaliser des industries comme, on va en prendre deux, l'automobile et les smartphones, qui aujourd'hui sont stagnantes au niveau mondial. Donc c'est-à-dire que c'est des industries qui doivent chercher de nouveaux débouchés. Aujourd'hui, on sait bien vers quels nouveaux débouchés elles vont aller. L'automobile, c'est le véhicule autonome, les smartphones, c'est les smartphones 5G, qui sont quand même deux technologies qui ont besoin de la 5G déployée d'un point de vue massif pour fonctionner. Donc on voit bien là qu'on est dans une logique de déploiement localisé pour après, une fois que les technologies seront au point, de toute façon avoir un déploiement massif pour précisément que ces technologies soient sur le marché. Donc là, on va dans un système où c'est encore une fois, comme d'habitude, le marché qui drive les grands choix technologiques qui vont structurer la société de demain.
Lors de la Rodière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'économie qui, encore aujourd'hui, en 2020, après le Covid, drive, comme dit Yael Benayoun, qui mène la danse en permanence.
C'est aussi l'innovation. Je pense qu'il n'y a pas à rougir du fait qu'on a envie de développer des innovations en France.
Mais on est quand même dans un contexte de crise écologique planétaire, non, c'est juste pas possible.
Ça peut être justement pour résoudre la crise écologique, vous n'allez pas la résoudre sans innovation. Ça, c'est pas vrai.
Mais peut-être
faut
pas
mentir aux Français.
Mais peut-être pas cette innovation-là.
Prenez la décroissance. Prenez la décroissance ou prenez la sobriété sans innovation. Je suis désolée, là, il n'y aura pas un pacte citoyen sur cette base-là. Mais alors, la réduction de la consommation d'énergie, elle passe par l'innovation et elle passe peut-être justement par la 5G plutôt.
C'est quelle innovation
sur les enjeux de santé, parce que moi je suis inquiète.
Par exemple, si on reprend
sur
l'industrie automobile,
Yael Benayoun, juste en un mot ce que vous vouliez répondre et ensuite le volet santé avec vous lors de la Rodière.
Juste
en un mot.
C'est-à-dire que oui, effectivement, on disait que l'industrie automobile est stagnante, elle va devoir se réorienter. La vraie question, c'est vers quoi elle va se réorienter. Est-ce que il faut qu'elle se réoriente vers les véhicules autonomes? Mais en fait, peut-être pas. Et c'est là où il y a une question.
S'ils sont électriques, oui.
Mais bah non, parce que là, vous oubliez toute l'infrastructure qu'il y a besoin
pour les produire.
Encore une fois.
La question sanitaire, ensuite, je donne la parole à Stéphane Kerkhoff. La question sanitaire dont vous vouliez parler.
Moi,
lors
je suis inquiète, en fait, des intox qui existent sur la 5G d'un point de vue sanitaire. Vraiment inquiète. C'est-à-dire que pendant le confinement, j'ai eu des personnes de ma circonscription que je connais, qui sont tout à fait sensées, tout à fait insérées, qui ont relayé le message en me demandant si c'était vrai ou pas, en disant les antennes 5G sont à l'origine du Covid, comme si c'était des antennes à pangolins.
Donc c'est faux, on le dit.
C'est complètement faux, on le dit, on le répète, mais c'est ce genre d'intox, c'est manipulé, c'est pas anodin, c'est manipulé sur les réseaux sociaux par mes mouvements qui cherchent à déstabiliser la France, c'est-à-dire c'est des mouvements ultra-gauche, c'est vu comme ça par les renseignements généraux.
Pas que ultra-gauche.
Mais non, après ceux qui agissent...
Non, vous pouvez pas juste cataloguer à une certaine catégorie. Non, vous pouvez pas, ça vient aussi de l'extrême droite, ça vient de on peut même pas cataloguer d'où ça vient d'ailleurs, puisque ça s'appelle une info, c'est que c'est sur Internet.
C'est ce qu'on voit dans tous les pays européens en termes de déstabilisation, c'est-à-dire c'est bien orchestré et c'est bien orchestré pour affaiblir les pays.
Stéphane Kerkhoff, on va laisser Stéphane Kerkhoff.
Parce que c'est totalement périphérique, mais depuis maintenant 4 mois que cette infox est sortie.
Oui, on va essayer de ne pas lui donner trop d'importance d'ailleurs, puisque c'est une fausse information.
Ça fait à peu près 4 mois que ça tourne, et les principaux propagateurs de cette fake news, ce sont les opérateurs et certains responsables politiques qui reviennent à la charge en mettant en évidence cette association.
Non, mais attendez,
on va ferme la parenthèse. En l'occurrence, c'est bien vous qui l'avez remis sur la table, alors que personne n'en parle.
On va arrêter d'en parler, c'est une fausse information.
La question sanitaire. Il y a un éléphant dans la pièce, en fait, personne n'en parle. Oui, il y a des effets des champs électromagnétiques sur la santé. Ça, en fait, l'ANSES ne cesse de le répéter. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'omniprésence du numérique, c'est qu'entre 13 et 18 ans, l'addiction au numérique a atteint 6h40 par jour. C'est 40% du temps éveillé.
Le temps d'écran.
Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une addiction aux écrans qui ne va aller que croissante. Votre émission d'hier sur la lecture, 41% des enfants, des ados qui sont âgés entre 15 et 19 ans, n'ont pas lu un livre dans l'année. Vous avez une augmentation de la myopie. Vous avez une baisse du temps de sommeil. Vous avez un problème avec la sédentarité, le manque d'exercice, un isolement qui fait qu'aujourd'hui, avec ce tout numérique, vous avez aujourd'hui un isolement croissant d'une large partie de la population qui n'appréhende l'extériorité qu'au travers des écrans.
Alors, on a un message qui vous contredit, qui reprend d'ailleurs l'image des ados. Juger la 5G à ses seuls usages domestiques, c'est comme juger le téléphone à partir de ce qu'en fait son ado. Message sur Twitter. Je voudrais, on en a parlé, qu'on vienne très rapidement, on a parlé de surveillance, de ce dossier dans le dossier 5G de Huawei, qui est, pour les gens qui ne savent pas, un fabricant, un équipementier chinois qui est pionnier en matière de 5G. C'est lui qui fabrique les téléphones qui seront compatibles, les antennes en particulier. Alors Huawei est accusé, soupçonné de potentiel espionnage de la part des États-Unis, de la part du Royaume-Uni qui du coup n'en veulent pas. En France, Bruno Le Maire disait il y a deux jours, on ne sait pas, on va voir, on ne va pas les interdire. Ce matin, l'agence Reuters affirme qu'à partir de 2028, Huawei sera également banni de France. Y a-t-il un risque d'espionnage à travers des antennes et des téléphones chinois, en l'occurrence de Huawei, Yael Benayoun ? Ou est-ce que c'est un mythe ou une légende qu'on est en train de construire ? Enfin, alors, vous le saurez pas,
ça,
mais
pour le coup, je sais pas. Mais j'ai fait des études dessus.
Est-ce que c'est un vrai sujet ?
En l'occurrence, ce qu'on peut quand même dire, c'est que c'est pas totalement un hasard si les États-Unis, on va dire, s'emparent du sujet, puisqu'il serait question que Huawei ait deux ans, on dit, d'avance sur le sujet et qui risque effectivement d'avoir un peu le monopole sur les infrastructures. Et donc, ça permet aussi, entre autres, aux Américains de pouvoir retarder un peu ce déploiement et se positionner sur le marché. Bon, il y a sûrement des enjeux un peu économiques derrière.
Donc c'est un sujet, Jacques Moulin, qui fait débat, mais qui est un petit peu compliqué.
C'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet où on a vu d'ailleurs peut-être certaines évolutions des prises de position des uns et des autres. Je crois que ce qui vient d'être dit, vous voyez, on a au moins un point commun, c'est que effectivement il y a une bipolarisation du monde économique et géopolitique qui est en train de se mettre en œuvre. On voit bien qu'on est dans une forme de nouvelle guerre froide avec tous les guillemets que l'on peut imposer entre les États-Unis et le continent asiatique en global. Très objectivement, il y a Huawei a été très présent sur le réseau en France, notamment vis-à-vis de certains opérateurs. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas non plus, si je me place cette fois-ci sur un raisonnement purement économique, que l'on mette les opérateurs dans une situation où ils seraient dépendants d'un ou deux fournisseurs, ce qui est quand même un sujet en tant que tel sur les prix. Il y a, c'est vrai, une qualité et une avance, c'est indéniable et tout le monde le reconnaît de la part de Huawei. Maintenant, il y a des impacts qui dépassent un petit peu sans doute aussi l'Europe par rapport à cette nouvelle guerre froide. Donc, vous savez, je crois que là encore, il faut que les choses soient bien posées. On a l'ANSSI qui s'est prononcé, on a des opérateurs qui ont effectivement évoqué le fait qu'ils étaient sur des partenariats raisonnables et raisonnés avec chacun de leurs fournisseurs. Il ne faudrait pas, je le dis, que l'Europe et la France deviennent là aussi un petit peu le dominion, oui, d'une puissance ou d'une autre. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'IDAT DigiWorld, et je le dis aussi, Huawei fait partie de l'IDAT, tout comme Nokia, tout comme Nokia, et on travaille avec Ericsson parce que nous partons du principe.
De toute façon, vous n'allez pas aller donc nous contre eux, a priori.
Non, pas du tout, le sujet n'est pas là. Nous sommes une association. Nous sommes une association. Et donc, en l'occurrence, on part du principe qu'il faut qu'il y ait débat et qu'à partir du débat, effectivement, on peut prendre des positions. Il n'y a rien de pire que de prétendre connaître des situations sans les avoir analysées. Nous sommes œcuméniques, on n'est pas à la solde de l'un ou de l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs que le 2 décembre, nous allons, au cours de notre summit, faire un point sur quel 5G pour l'Europe.
Notre sommet, vous avez raison. S'il vous plaît.
Quel 5G pour l'Europe, quelle infrastructure. Et on abordera les parties souveraineté, on abordera la partie transition écologique. C'est un élément qui était essentiel.
Lors de la Raudière, un message de Denis. En démocratie, il y aurait un vrai débat, une campagne pour, contre un référendum et les Français choisiraient. On en est loin. Toutes les grandes modifications sociologiques ne devraient pas être décidées autrement que par référendum. En tout cas, pas par des opérateurs téléphoniques, des lobbies et des élus qui ne pensent qu'à leur prochain mandat.
Je pense que c'est pas que le débat de la 5G dans ce cas-là, c'est le débat de l'ensemble de l'utilisation du numérique dans notre société, de la société qu'on veut construire ensemble. Quelle est la part de déconnexion qu'on veut avoir, quelle est la part de connexion. C'est pas le rejet du numérique en soi, hein, c'est quelle est la société qu'on est en train de construire à l'ère du numérique. La 5G par rapport à ça est finalement presque annexe, puisque c'est l'usage d'un réseau. Moi, je suis favorable à ce débat. Je voudrais juste rappeler que les réseaux de télécommunications, rapidement, sont des infrastructures vitaux. Enfin, c'est des infrastructures vitales d'un pays. C'est-à-dire que c'est essentiel et normal que le gouvernement édicte des règles de choix des équipements qui sont sur les réseaux. Et si le gouvernement estime que Huawei, dans 8 ans, n'a plus à être sur nos réseaux, c'est une décision qui est souveraine d'un État.
Alors, ça n'est pas
donc
encore
voilà,
tranché.
Je pense que c'est
Stéphane
important.
Kerkhoff, dernier mot.
Oui, bah moi je reprends la balle au bon. Oui, il faut un débat public. Et nous avons, les parlementaires votent assez régulièrement des budgets pour tout un tas d'agences, dont l'Agence Nationale des Fréquences, dont l'ADEME, dont l'ANSES. Et il y a une quatrième agence, c'est la CNDP, la Commission Nationale du Débat Public. Ça fait des mois que nous demandons que cette commission se saisisse pour mener à bien, de façon à objectiver le débat, sur la partie climatique, énergétique, sur les usages, sur la santé. Et malheureusement, le gouvernement veut précipiter les choses, veut attribuer les fréquences entre le 20 et le 30 septembre, alors que toutes ces agences sont en train de travailler. On ne comprend pas à quoi servent ces agences si elles n'arrivent pas avant la décision.
Et donc, on rappelle des demandes de moratoire de la part de votre association Agir pour l'environnement, de beaucoup d'autres associations, de maires également, et des pétitions donc à suivre, comme on dit. Dernière chose avant de se quitter, on va ouvrir l'Obs, si vous le voulez bien, on va l'ouvrir ensemble comme tous les jeudis. Il est en kiosque depuis ce matin avec la directrice de la rédaction, Dominique Nora. Bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, écoutez le petit air qu'on va avoir dans la tête à bicyclette, puisque vous allez nous parler de la vélorution, Dominique.
Oui, Camille, absolument. Cette semaine, l'Obs raconte dans un dossier pourquoi et comment la France s'est enfin mise à pédaler. En fait, c'est un peu comme pour le télétravail. La pandémie du coronavirus a été un déclencheur pour beaucoup de gens. Et au moment du déconfinement, eh bien, le phénomène s'incruste et s'accélère. La France était le pays de l'industrie automobile et donc on était très en retard sur l'adoption du vélo par rapport notamment à nos voisins d'Europe du Nord. Tout le monde a en tête les images d'Amsterdam ou de Copenhague. Mais pendant le confinement, les voitures ont disparu, laissant plus d'espace à la petite reine et les transports en commun étaient impraticables ou pouvaient prendre de moins en moins de passagers. Donc le vélo s'est imposé, collectivement nous y avons pris goût et le trafic cycliste a même progressé en France de près de 30% entre la mi-mai et la fin juin par rapport à la même période l'an dernier.
Mais Dominique, est-ce que...
Oui, on peut parler d'une véritable vélomania en fait.
Mais alors justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui appartient un petit peu qu'aux villes? On parlait tout à l'heure des campagnes, c'est pas un peu une lubie de bobos parisiens comme on pourrait le dire?
Ah mais pas du tout, pas du tout. Les progressions les plus fortes des usages, au contraire, étaient enregistrées dans les villes de moins de 100 000 habitants. Si je vous dis Limoges, Arras, Saint-Nazaire, Chambéry, voilà, c'est pas évident, mais le vélo a conquis ces villes. Et en toile de fond, il y a bien sûr la prise de conscience écologique, le ras-le-bol du tout-bagnole, surtout chez les jeunes urbains qui passent même plus leur permis de conduire. Mais c'est aussi plus philosophique ou psychologique, comme nous l'a expliqué l'écrivain Bernard Chambaz. En fait, le vélo, ça procure aussi un sentiment de liberté et une manière peut-être de renouer avec notre enfance et nos premiers pas sur les deux roues, si je puis dire. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu la vague verte au municipal. Et d'ailleurs, on met à l'honneur, à la une de l'Obs cette semaine, l'élu qui symbolise le mieux cette révolution politique, c'est Léonore Monconduit, la nouvelle maire de Poitiers.
Qui appelle 30 ans.
D'un véritable phénomène citoyen.
Et même le monde des affaires s'est pris de passion pour la petite reine.
Oui, de plus en plus d'entreprises subventionnent les déplacements à bicyclette de leurs collaborateurs, mais pas seulement ça, ils organisent des événements autour du vélo. Et en fait, le mantra, c'est le vélo, c'est un peu le nouveau golf. C'est-à-dire que c'est en pédalant qu'on fait des rencontres, qu'on noue des partenariats, voire qu'on signe des contrats. Et le mouvement est aussi porté par l'univers des start-up et de la technologie, puisqu'il intéresse les jeunes. Et il y a beaucoup d'innovations autour du vélo, avec une figure phare qui est Marc Simoncini, et sa smart bike, voilà, qui s'appelle Angel et désormais qui sera fabriquée en Côte d'Or par le groupe Seb, qui passe donc de la cocotte minute, enfin qui ajoute le vélo à sa gamme de d'ustensiles pour la cuisine.
Et voilà, la vélorution, c'est donc à lire dans l'Obs de cette semaine. Et moi, je fais un petit message à Radio France, on voudrait des garages à vélo, hein. Je continue mon combat, merci. Et merci à vous Dominique Nora, bonne journée.
Merci beaucoup,
merci.
Au revoir, bonne journée.
Aussi à mes quatre invités du jour, dont Stéphane Kerkhoff d'Agir pour l'environnement, Yael Benayoun de l'association Le Mouton Numérique, la députée Laure de la Rodière du groupe Agir et Jacques Moulin du think tank IDAT. Et on se retrouve demain, on parlera du passé qui apparemment nous rassure, il y aura même du Louis de Funès. Bon après-midi les amis.